Pique les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis et la course à la présidence côté opposition démocrate. À Des Moines, dans l'État d'Iowa, 7e débat télévisé des primaires démocrates hier soir. Après une période de très vive tension entre les États-Unis et l'Iran, 6 candidats espérant défier le président républicain Donald Trump à la présidentielle de novembre ont été longuement interrogés sur leur programme concernant le Moyen-Orient. Le compte-rendu de Jean-Roger Bion.
Le vent en poupe dans les sondages, Bernie Sanders a taclé mardi soir le favori Joe Biden sur son bilan en politique étrangère. Bernie Sanders a critiqué une nouvelle fois Joe Biden sur son vote en 2002 lorsqu'il était sénateur pour autoriser George W. Bush à intervenir militairement en Irak. L'ancien vice-président a qualifié une nouvelle fois son vote d'erreur, mais a souligné que cela n'avait pas empêché Barack Obama, qui s'était opposé à la guerre en Irak, de le choisir ensuite comme son bras droit. Troisième dans les sondages nationaux derrière les deux hommes, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren a affirmé qu'elle était pour le retrait des troupes américaines du Moyen-Orient. Sur le nouvel accord commercial négocié entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, les 6 candidats avec l'ex-maire Pete Buttigieg, la sénatrice modérée Amy Klobuchar et le milliardaire Tom Steyer ont là aussi exposé leur division. Ce débat était le dernier avant le vote très attendu dans l'Iowa, qui marquera le 3 février le coup d'envoi des primaires démocrates. État rural peu peuplé, l'Iowa pourrait avoir une grande influence sur la course démocrate, puisqu'il sera le premier à voter en début de mois de février. Les sondages y sont extrêmement serrés entre 4 favoris, Biden, Sanders, Buttigieg et Warren.
Actualité américaine toujours à Washington. La Chambre des représentants du Congrès des États-Unis votera ce mercredi pour envoyer au Sénat les chefs d'inculpation retenus contre le président Donald Trump dans le cadre de la procédure d'impeachment, la mise en accusation du chef de l'exécutif. Il reviendra ensuite aux sénateurs de décider à la faveur d'un procès à la Chambre haute si Donald Trump doit être démis de ses fonctions ou non. Reportage de Patsy Wildakuswara, récit de Lionel Gaïma.
Face à cette menace, le président Donald Trump a décidé d'emprunter les stratégies de deux de ses prédécesseurs qui s'étaient retrouvés dans la même situation, explique le professeur Todd Belt de l'Université George Washington.
Ils étaient vraiment concentrés. Le président travaille, effectue des voyages à l'étranger, il travaille pour le peuple et n'est pas distrait par cette affaire. Mais en même temps, il dit et redit que ses adversaires tentent d'annuler la volonté populaire, d'annuler une élection.
Trump a recours aux tactiques du républicain Richard Nixon, qui s'était opposé aux démons du Congrès sur des enregistrements et qu'il impliquait dans le scandale de Watergate. Thomas Schwartz enseigne l'histoire présidentielle à l'Université Vanderbilt.
Nixon a essayé de coopérer, publiant à diverses reprises des transcriptions et autres choses du genre, mais il a tenté de faire valoir que cela compromettrait la sécurité nationale. Il a fallu une décision de la Cour suprême pour donner accès aux enregistrements, y compris celui l'incriminant.
En 1974, la commission judiciaire de la Chambre, dominée par les démocrates, avait voté 3 chefs d'inculpation contre Nixon pour entrave à la justice, abus de pouvoir et obstruction du Congrès. Trump, lui, a été inculpé d'abus de pouvoir et d'obstruction du Congrès. Pas un républicain n'a voté en faveur de sa mise en accusation. Le processus était moins partisan pour les présidents Nixon et Clinton. Des dizaines de sénateurs républicains ont voté contre l'inculpation de Clinton. Des dizaines de sénateurs républicains avaient fait pression sur Nixon pour qu'il démissionne et évite ainsi d'être inculpé. À nouveau, l'historien Thomas Schwartz de l'Université Vanderbilt.
Le problème qu'avait Nixon, c'était des crises massives, particulièrement l'inflation et le chômage. La situation économique était très grave. Les dommages, l'impression que l'économie s'effondre a affecté le soutien que pouvait lui apporter le public.
Des 44 prédécesseurs de Donald Trump, 3 ont été confrontés à la procédure d'impeachment. Andrew Johnson et Bill Clinton ont été acquittés. Richard Nixon a démissionné avant d'être inculpé.
Toujours à Washington, le président Donald Trump paraphe ce mercredi un accord synonyme de trêve dans la guerre commerciale avec la Chine. La signature de ce traité, prévue à la Maison-Blanche en présence du vice-premier ministre chinois Liu He, mettra temporairement fin à un bras de fer dont l'enjeu n'est ni plus ni moins la domination économique et technologique mondiale. Entamée au printemps 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées déloyales par Washington, ce conflit s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique maintenant, en Guinée, le cycle des manifestations et répressions s'enchaîne à nouveau. Les opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ne sont pas prêts de baisser les bras. Idrissa Seydoudia.
Les violences politiques ont fait une nouvelle victime hier dans ce pays en proie à une intensification de la contestation contre le projet de troisième mandat attribué au président Alpha Condé. La victime identifiée comme Souleymane Barry par le ministère de la Sécurité est au moins le troisième civil tué par balle depuis lundi. Au total, au moins 23 civils et un gendarme ont trouvé la mort depuis la mi-octobre et le début d'une protestation à plusieurs reprises durement réprimée par les services de sécurité. Le mouvement est monté d'un cran lundi avec le lancement par l'opposition d'une mobilisation massive et illimitée.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque de Chinegodar dans l'ouest du Niger. Incursion qui a fait ce mois-ci 89 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité nigériennes. Le même groupe avait déjà revendiqué l'attaque de la base d'Inates qui avait fait 71 morts en décembre dans le même pays. Le point avec Kia Badou.
Les soldats du califat ont attaqué une base de l'armée nigérienne dans le village de Chinegodar jeudi 9 janvier. Les combats ont duré plusieurs heures, affirme le communiqué du groupe État islamique qui assure avoir tué 100 éléments de l'armée nigérienne. Le groupe, qui ne précise pas ses pertes, affirme aussi avoir détruit de nombreux véhicules, brûlé les casernes et avoir emporté des véhicules, des armes et des munitions. Dimanche, les autorités nigériennes avaient revu à la hausse le bilan passant de 25 à 89 soldats tués et 63 terroristes neutralisés. Cette attaque est survenue un mois après celle d'Inates, dans la même région de Tillaberi, frontalière du Mali, qui avait coûté la vie à 71 soldats. Cette attaque aussi a été revendiquée par le même groupe. Lundi, le président nigérien Mahamadou Issoufou a entièrement remanié la tête de l'armée nigérienne avant de se rendre au sommet d'Opo dans le sud-ouest de la France. Selon les Nations Unies, les attaques djihadistes récurrentes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait plus de 4000 morts en 2019.
Afrique centrale, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 18 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des combats entre l'armée et une milice à proximité d'une mine d'or. Les détails avec Eddy Sango.
Plusieurs enfants sont encore portés disparus d'après l'abbé Célestin Kijana, curé des Salamabila. Paniqués, des centaines d'élèves se sont enfuis au début des combats samedi à la sortie des classes. 18 corps dont 8 enfants ont été enterrés selon l'homme d'église dans la province du Maniema. 6 miliciens ont été tués et 2 capturés selon les capitaines Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée. Il ne dit rien des pertes civiles, ajoutant qu'un militaire a été tué et 2 blessés. Samedi, des combats avaient opposé les militaires des forces armées congolaises et la milice Malaika qui prétend défendre les intérêts des habitants. Ces groupes armés demandent le respect d'un cahier des charges pour le partage des richesses de la mine d'or des Salamabila. En 2017 puis en 2019, les Malaika ont enlevé pendant plusieurs semaines des salariés de la société canadienne Banro qui exploitait les sites aurifères. En septembre, Banro a été contraint de suspendre ses activités. La mine d'or et ses environs sont sous contrôle de l'armée.
Pour terminer, au Soudan, 2 soldats soudanais ont été tués lors de l'assaut des forces gouvernementales contre 2 bases des services de sécurité, une rébellion a éclaté mardi contre un plan de restructuration. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le chef de l'état-major. Des tirs ont eu lieu mardi sur 2 bases de la région de Khartoum, hébergeant l'ex-service national de renseignement et de sécurité soudanais qui a joué un rôle de premier plan dans la répression du mouvement de contestation déclenché en décembre 2018 et ayant mené en avril à la destitution par l'armée de l'ex-président Omar al-Béchir. Le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh, avait fait état d'un début de rébellion lancé par des membres de l'ex-service de renseignement qui rejetaient la somme qu'ils avaient reçue pour leur départ à la retraite. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.